Alien et les garçons, épisode 17. Bienvenue dans Toi, monde meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 17. Bonjour tout le monde.
C'est quoi cette nouvelle voix?
Ouais. Mais c'est parce que c'est notre speakerine qui a fait 17. Vous avez entendu, elle a fait épisode 17. Alors moi j'ai pris la voix de la speakerine 17.
D'accord, très bien.
Est-ce que tout le monde va bien autour de la table, Vic, Florian et moi, Thomas?
Moi ça va aussi.
Et Thomas, on te demande jamais.
Bah moi ça va pas bien justement. Si, ça va très bien,
c'est
évidemment.
C'est pour ça qu'on te demande jamais.
Évidemment, oui, parce que ça va toujours très bien.
Ouais, ça va toujours très bien.
Et pourquoi ça va bien?
On est heureux parce qu'on a plein de nouveaux auditeurs.
Et pourquoi on a plein de nouveaux auditeurs?
Parce qu'on est maintenant un podcast partenaire d'Ouzbek Erika.
Et bravo. Pourquoi on est maintenant un podcast partenaire d'Ouzbek Erika?
C'est parce qu'on leur a fait un mail.
Et c'est déjà beaucoup.
Merci Ouzbek Erika, merci les nouveaux auditeurs.
Ouzbek Erika.
Et du coup, les nouveaux auditeurs sont déjà partis parce qu'ils savent pas où ils sont tombés là.
Non.
Mais en tout cas, non, on est très fiers. On aime beaucoup Ouzbek Erika. Autant que Elon Musk.
Vous voulez que je fasse l'explicateur? C'est la première fois depuis très longtemps en plus.
Bah, en fait, il y a déjà eu un épisode posté sur Ouzbek Erika, mais où on n'en parlait pas, mais parce qu'on l'avait enregistré avant. Et là, c'est le premier épisode qu'on enregistre après. Mm-hmm. Donc peut-être effectivement qu'il faudrait expliquer le principe du podcast.
Ça fait longtemps, je suis peut-être un peu rouillé.
Allez, vas-y.
Mais fais pas ton... Hein.
Arrête.
Allez, vas-y, Florian.
Alien et les garçons, c'est quoi? Alien et les garçons, c'est une sorte de club de lecture slash écriture où en gros, nous trois, Florian, Vic et Thomas, on se réunit autour d'un verre pour discuter des mondes que nous avons créés autour d'un thème. Thème qui est donné par les auditeurs et nous ne connaissons pas les textes que nous avons chacun écrit des autres.
Et ça crée débat, ça...
Exactement.
On en parle, on parle de plein de choses sur l'avenir, de la SF, de l'extraterrestre et des choses comme ça, et c'est formidable.
On s'éclate.
On s'éclate. Hein,
ça n'a pas l'air, mais on s'éclate.
Sauf que, alors juste, Ouzbek Erika, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour les anciens auditeurs, peut-être, machin.
Ceux qui connaissent.
Bah, il y en a plein.
Le podcast, pour ceux qui ne connaissent pas.
Ce qui est bien pour eux, c'est qu'on leur fait
c'est
un peu de pub.
Ouzbek Erika, c'est un... Ils ont besoin de nous. Ouzbek Erika, c'est le magazine qui explore le futur, c'est super bien. On lit depuis un moment, on est même allé à leur conf qui sont pas vraiment des confs, qui sont plutôt des procès, etc. C'est vraiment très cool, tribunaux, voilà, c'est très cool. Et du coup, on est super content d'être partenaire. Et voilà.
Tout à fait.
Mais pour nous, ça va, enfin pour vous, ça va rien changer, mais pour nous, comme on en parlait tout à l'heure, on gagne énormément d'argent, tout simplement.
On a fait une nouvelle extension au château, et donc là, on enregistre dans la nouvelle extension.
Exactement.
T'inquiète.
Très bien. Par contre, donc tout ça, on a parlé de ce que c'était qu'Alien et les garçons pour tous les nouveaux. Mm-hmm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait pas du tout un épisode comme d'habitude parce que c'est un épisode spécial.
Oui, ça tombe mal. Enfin, ça tombe mal.
On est content. Ça fait longtemps qu'on en parle.
Content, non?
Oui. Non, mais bien sûr. Mais ça tombe mal si c'est le premier que vous écoutez. On dit ça effectivement à chaque fois.
Non, c'est à peu près pareil. Ça, on va juste au lieu d'avoir trois mondes différents qu'on se raconte, là, c'est un seul qu'on a créé comme on crée un cadavre exquis finalement. C'est ça?
Exactement. Parce que ça s'appelle Exquise Planète.
Exquise Planète, qui nous était inspiré aux Utopiales de Nantes l'année dernière.
Voilà.
On est allé, on a fait un épisode sur ça où on était fin ivre. Si vous voulez l'écouter, c'est un peu honteux. Et c'était vraiment sympa là-bas. On a eu plein d'idées, notamment ça. En fait, Exquise Planète, c'est un bouquin qui a été écrit par quatre personnes qui sont
des têtes.
On a Pierre Bordage qui est écrivain, Jean-Paul Demoule qui est archéologue, je crois.
C'est ça.
Roland Lehoucq qui est astrophysicien, Jean-Sébastien Steyer qui est donc
Notre personne préférée sur Terre.
Et qui est paléontologue.
Et c'est aussi pour ça que c'est notre personne préférée sur Terre.
Exactement.
Et ces gens-là ont écrit un livre qui s'appelle Exquise Planète. Chacun a écrit sa partie, a créé une sorte de planète et c'est vraiment sympa.
Ils ont créé une planète, effectivement. D'abord la planète, après la vie qui se développe dessus, après les civilisations. Exactement. Et l'écrivain de SF, Pierre Bordage, après, il a fait une petite histoire. On leur a volé le concept, on a essayé de faire un peu pareil. Ouais,
parce qu'on est très peu inspiré comme personne.
Voilà. Mais on a fait un peu pareil en mieux, vous allez voir.
Oui, nous,
en
c'est
mieux.
En fait, disons que eux, c'est scientifiquement plausible. Nous, bof. Nous, ça part un peu en plus.
C'est pas déconnant parce que du coup moi je suis la deuxième partie, donc j'ai lu ce qu'a écrit Vic ne sait pas du tout ce que nous avons écrit.
Non.
J'ai lu ce qu'a écrit Vic et Thomas qui écrit la troisième partie a lu ce que nous avons tous les deux écrit. Je trouve pas ça déconnant ce qu'on a écrit, c'est plutôt logique. C'est plausible? J'en sais rien.
Écoute, on verra à la fin.
Moi je connais que la première partie, la mienne, et c'est pas totalement logique, hein.
En fait, surtout toi qui nous a foutu dans la merde.
Pour
vous expliquer, Vic en fait a décrit la planète, il a imaginé la planète de base. Mm-hmm. Florian a ensuite imaginé la faune et la flore, la vie qui était dessus, comment ça se passait. Et moi j'ai imaginé la civilisation évoluée qui était dessus. Et donc du coup,
j'ai hâte de découvrir ce que vous avez fait de la petite planète.
Avant de commencer, on n'a pas de portrait des Klingons chinois.
On n'a pas de portrait chinois des Klingons. Bah, d'habitude, on en fait, mais aujourd'hui,
c'est spécial. On fait
des folies. Okay, ce soir, je sais pas. Il se passe des choses. Non, on va pas faire ça.
C'est... Bah, vous pouvez écouter les 16 premiers portraits chinois des Glingos.
Ouais, vous pouvez faire non, ça.
Et... C'est super. Vous allez apprendre nos types de Pokémon préférés. Vous allez apprendre par quel portrait signe chinois on se définit. Enfin, des choses tout à fait intéressantes.
Un jour, il faudrait faire un épisode spécial où on fait une espèce de montage avec que les portraits des Glingos.
Ça va être vraiment intéressant.
Ouais, c'est... Non, mais c'est pour apprendre à nous connaître encore plus. Ouais.
Peut-être qu'on fera un épisode. On fera peut-être un épisode FAQ, maybe.
FAQ.
FAQ. Foire aux questions. Je voulais. Attendez, je vais faire un truc sans transition. Je voulais juste rappeler un truc pour les auditeurs, les fans de Vic, parce qu'ils sont nombreux. Mm-hmm. Les fans de Vic, c'est Vic, comme promis à l'épisode dernier, qui va s'occuper du quiz à la fin de l'épisode.
C'est exact.
Et on s'attend ma place à quelque chose d'incroyable.
Ouais.
Il est en train de préparer ça juste avant. Il a mis 10 000 ans à le préparer. J'espère que ça va être bien.
J'ai
parce
pas
que
mis
sinon...
10 000 ans à le préparer. J'avais juste peut-être un peu... oublié. Et effectivement, tu as bien fait de me rappeler que c'était moi qui me chargeais du désormais célèbre quiz.
Tu n'es pas obligé d'être très bon parce que j'aimerais bien gagner ma place.
Je te la laisse. Ce n'est pas une compétition dans la compétition, t'inquiète pas.
Je te la laisse.
Très bien, on s'est un peu tout raconté. Je pense que les gens ont vraiment envie de savoir de quoi on va se parler maintenant. Donc, d'une planète qu'on a écrite à trois mains façon cadre avec Ski. Et c'est Vic qui est supposé commencer à nous raconter sa chronique qu'on va découvrir tous ensemble.
Wandika, une planète de caractère.
Nuages de gaz, force gravitationnelle, fusion nucléaire et accrétion de matière. Voici les quatre étapes à l'origine de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans l'univers. Enfin, ça, c'est ce que la plupart des civilisations avancées pensent. Il existe une autre recette pour former les étoiles. Une recette inconnue de presque tous et pourtant bien connue de presque tout le monde. L'amour. L'amour, oui. Le même amour, ou quasi, que celui qui chaque jour unit Mario et Luigi, Queen Bee et Jay-Z, ou Fox Mulder et Dana Scully. Notre histoire d'amour se déroule il y a quelques milliards d'années, quelque part dans l'univers. Et elle commence avec deux golgues qui dérivent harmonieusement dans le grand infini du cosmos. Ces sons sont ceux des deux golgues en question. Les golgues sont sans doute l'espèce la moins connue de l'univers, et à la fois la plus massive. En fait, un golgue moyen équivaut aux dimensions et à la masse d'une petite planète tellurique, disons Mars. Ils sont bien trop gros pour être considérés comme vivants par la plupart des espèces qui croisent leur route. D'ailleurs, lorsqu'un observateur a la chance d'en voir un, il pense avoir en face de lui une simple planète. Les golgues se déplacent presque toujours à deux, en couple. L'un orbitant autour de l'autre dans une sorte de lente chorégraphie hypnotique d'un milliard de kilomètres. Ils naissent d'une manière assez mystérieuse, rejoignent un congénère et vivent à deux jusqu'au moment de donner naissance à leur tour. Après la naissance, le couple se sépare et chacun rejoint l'orbite d'une étoile autour de laquelle il entre en phase d'hibernation. Il devient alors ce que l'on pourrait appeler une planète. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un golgue qui vient de rejoindre l'orbite de l'étoile Idalia. Ce golgue s'appelle Quandika. Il vient de se séparer de son partenaire et cesse donc son voyage interstellaire. Le système d'Idalia sera son nouveau quartier. À partir de maintenant, nous parlerons de Quandika comme étant une planète, car à peu de choses près, ses caractéristiques l'en rapprochent. Depuis qu'il est entré en orbite et en hibernation autour d'Idalia, Quandika a développé toutes les facettes d'une planète tellurique basique. Elle contient une forte quantité de fer en son cœur, ce qui pourrait la rapprocher d'une planète métallique comme Mercure. Mais contrairement à Mercure, la croûte rocheuse de Quandika est très épaisse et carbonifère, comme celle des planètes de silicate de type Terre, Mars ou Vénus. Quandika est une mésoplanète tempérée d'environ 40 degrés en surface et donc située dans la zone habitable d'Idalia. Après quelques millions d'années à se gorger de l'énergie et des rayonnements de son étoile, Quandika a développé une atmosphère de 50 km. Elle effectue sa révolution autour d'Idalia en 99 jours, et d'une manière tout à fait inexplicable, mais sans doute liée au fait que Quandika soit avant tout un être vivant, cesse sa révolution pendant un jour, le centième donc, avant de reprendre son orbite naturelle. Ce brusque arrêt, physiquement impossible et pourtant, provoque un mouvement violent dû à la force centrifuge résultant en une immense marée dans l'océan de Quandika. Car oui, il y a aujourd'hui un océan sur la planète. Un vaste océan central situé autour du pôle sud. Si vous creusiez quelques centaines de kilomètres sous cet océan, vous trouveriez le cerveau de Quandika en hibernation. même si creuser ici ressemble très fort à une très mauvaise idée. Malgré la force gravitationnelle d'Idalia, ainsi que celle des 6 autres planètes du système, Quantica n'a pas totalement la forme elliptique d'une planète classique. Et au nord de l'un de ces grands déserts rocheux, on trouve une bande de plusieurs dizaines de kilomètres de Terre qui s'élève ondulante vers l'espace. Voilà son ancienne queue et gouvernail cosmique fossilisé, telle une sinusoïde massive de roches menaçantes. En matière de topographie, on pourrait également évoquer ces deux montagnes de près de 15 000 km d'altitude, qui sont en fait deux protubérances symétriques qui servaient de radar à ultrasons à Quantica lorsqu'elles se déplaçaient encore dans l'espace. On pourrait également citer Taraka, son satellite naturel et dernier cadeau de son ancien partenaire de voyage. Enfin, comment ne pas parler de ces vastes forêts qui clairsèment toute sa surface ? Des millions de kilomètres carrés de poils capables de s'élever ou de se coucher en fonction des humeurs de Quantica. Car il ne faut pas l'oublier, mais avant son hibernation, Quantica était un golg, disons plutôt caractériel, tout autant capable de longues périodes de douceur apaisée que de colère fracassante. Mais après quelques millions d'années en orbite, toutes ces sautes d'humeur devraient être de l'histoire ancienne, non ? Et voilà les amis.
Et voilà, bienvenue vous, sur Quantica.
Et c'est
bienvenue
avec sur ça
Quantica.
On a dû écrire. Hein.
Et pour la première fois dans l'histoire d'Alien et les garçons, effectivement, ce texte, je vous le lisais en sachant que vous le connaissiez. Alors que normalement, il y a un petit plaisir de le faire découvrir en direct, à lancer les sons, machin. Bon, les sons, vous ne les connaissiez pas, ils sont classiques.
Tu nous as mis, c'est quoi, c'est Mozart, ça ?
Non, je ne sais plus, il n'est pas si connu.
Enfin,
j'imagine
tout,
que
moi.
Pour un féru de musique classique, il me dit, ouais. Il se dirait, putain, j'arrête d'écouter ce podcast tout de suite, parce que c'est machin,
vraiment,
tu vois.
C'était pas qu'il dit que c'est Mozart, je me casse.
Non, je ne sais plus, non, mais je sais plus. Mais on le citera peut-être un jour sur Twitter ou ailleurs.
Et moi, du coup, c'était très bizarre de t'entendre parler de ça, parce que du coup, je ne l'imaginais pas jouer comme ça ou dit comme ça, alors
oui.
Que pourtant, tu vois.
Moi, je pensais que c'était Quantica et pas Quantica.
Ah, moi j'ai toujours pensé Quantica.
D'accord. Bah,
Parce que déjà tu me l'as dit aussi, on va pas se mentir.
Je t'ai dit Quantica, ouais. Je t'ai dit Quantica.
Tu m'as dit Quantica et tu m'as dit exactement ce que ça voulait dire.
Ah,
d'ailleurs.
C'est peut-être parce que je t'ai dit le titre c'est mieux Quantica, planète de caractère ou Quantica, une planète qui n'en était pas une ou un truc comme ça.
Non, tu m'as dit clairement ce que voulait dire Quantica.
Ça veut dire quoi Quantica
ça fait si longtemps. Bah, du coup, pour la première fois aussi de l'histoire d'Alien et les garçons, j'ai écrit un texte il y a très longtemps parce que forcément j'avais pas le choix.
Il y a quasiment plus d'un mois.
Et pour la première fois, moi Thomas, de l'histoire d'Alien et les garçons, je l'ai pas écrit 3 semaines à l'avance, je l'ai écrit là, je l'ai terminé il y a tout à l'heure à 15h.
Bah voilà, du coup, parce que t'étais forcément le dernier.
Ouais.
Alors, Quantica, effectivement,
Quantica, je crois que
c'est en Swahili.
Ouais, ça veut dire écriture ou écrire ?
Et ça veut dire écrire en Swahili, ouais. Effectivement.
Waouh wow. Ouais.
Oui, et c'est ça.
Ah, tu savais pas du coup, toi.
Bah non, je savais pas. Et
non, tu savais pas. Ouais.
Et ouais. Je vais l'oublier aussi vite, d'ailleurs. Mais...
Non, mais bon, c'était les noms. J'aime bien quand voilà, ça veut dire des trucs. Mais effectivement, oui, ça veut dire écriture, planète exquise. On écrit tous les trois. On est un club d'écriture.
C'est
SF,
mignon,
ça me semblait être sympa.
Ça sonne bien.
Et c'est puis ça sonne
mignon.
Plutôt pas mal. Ouais.
Ça sonne bien.
Le Swahili sonne très bien.
Je m'attendais pas du tout pour revenir plutôt sur ta planète, rentrer un peu dans le dur.
Ça sonne pas vraiment du tout
une planète vivante. C'est très original. On était là, on y pouvait imaginer des planètes, peut-être, je sais pas, qui. Je sais même pas quoi en fait, des planètes faites que d'eau ou mais vraiment littéralement que d'eau.
J'y ai pensé. Hein,
ou des planètes où souffle un vent terrible constamment. Ça, c'est déjà été
on l'a déjà fait.
Mais... Épisode 1, vent pour les nouveaux auditeurs.
C'est ça, et pouvoir plein de choses. Une planète avec un orage perpétuel ou plein. Ou avec, bref, peu importe. Et une planète vivante. En fait, une planète qui devient une planète une fois qu'elle se met en hibernation. En fait,
voilà, c'est ça.
Et du coup, j'ai bien aimé ta pirouette pour ne pas dire comment ils font des bébés.
Oui, bah,
est-ce que tu ne le dis pas vraiment ?
Non, je
ne
le dis pas vraiment. Après, c'est énorme. C'est une machinerie, c'est des litres de sperme. Il fallait mieux pas décrire ça maintenant.
La Voie Lactée,
quand même
en fait, c'est respectable.
La Voie Lactée, ça vient d'un golg.
On va passer en plus 18 sur iTunes.
Non, en vrai, la planète vivante, c'est parce que je me suis dit, OK, il y a deux choses en fait. Le premier, c'est que je suis quand même pas un putain d'astrophysicien qui sait comment ça se passe.
Vrai,
alors, je suis allé voir les trucs, c'est pour ça que je commence par fusion nucléaire, machin et tout. Je suis allé écouter des podcasts du SBKRK, hein, dans 300 milliards d'étoiles. Vous pouvez apprendre comment se forment les étoiles. Très intéressant. Bref, donc devant mon incompétence, premièrement, et surtout devant l'envie de vous emmerder, deuxièmement, je me suis dit comment je pourrais les emmerder. Bah, tiens, je vais pas faire une vraie planète avec peut-être quelque chose dans l'atmosphère, machin. Je vais faire une planète vivante. Et puis en même temps, ça me faisait marrer de me dire qu'est-ce que vous allez faire d'une planète vivante.
Donc, tu m'as bien emmerdé, bravo, tu as bien réussi.
Ouais,
vous verrez, moi, tu m'as bien arrangé finalement.
Ah ouais,
ouais, complètement, ouais. Vous verrez.
C'est rigolo que ça va dire, ouais, je suis pressé.
Et donc, on se parle d'une forme de vie énorme qui dérive dans la travers les étoiles et
c'est
qui d'un coup ça grippe à une étoile et devient.
Ça se met en orbite autour
jusqu'à
d'une
étoile. Jusqu'à ce qu'elle finalement se réveille à nouveau.
Alors, je sais pas.
Ah, se réveille à nouveau ? Indice ?
Ah non.
Parce qu'elle ne se réveille pas à la fin.
Non.
D'accord. Enfin, chez moi, enfin, voilà. J'ai vraiment cru voir un indice en fait, que dalle.
Ok, vous pouvez imaginer ce qui va se dire, mais c'est pas ça.
D'accord, merde. Chier.
Et ouais, c'est intéressant. Moi, ça me pose aussi une question simple déjà, qui est s'il existe d'autres formes de vie dans l'espace. On imagine toujours des extraterrestres à peu près de notre taille.
Ah oui.
Ou parfois un peu plus grand, mais genre qui tiennent sur la Terre. Mm-hmm. Pourquoi pas un truc énorme.
Une forme de vie de la taille d'une planète. On a un peu une crotte de nez dans le système solaire.
Même un être humain, c'est tout petit par rapport à effectivement cet être qui est Quandica. Tu vois,
quoi. Ouais, une girafe. En gros, une girafe, c'est vachement grand, une girafe.
Bien sûr, exactement. Je vais faire une référence très pointue quand même, qui est Men in Black.
Oui, toujours.
Avec effectivement ce collier, cette espèce de collier où effectivement il y a une galaxie dedans.
Oui.
Ouais. C'est un peu ce que t'es en train de dire, au final.
Ah bah c'est aussi très Rick and Morty, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, Rick and Morty s'inspire des Men in Black.
Bah, c'est bien connu. Ils ont tout pompé. Ouais, donc c'est très rigolo. Et pourquoi Golg ?
Pourquoi Golg ?
Juste comme ça.
Ça fait un mois et demi.
Alors, c'est une intéressante question. Sache que dans le dialecte Youssou, un petit dialecte de Sibérie, le Golg est... Non, en fait, Golg, j'ai trouvé que ça sonnait bien. J'imagine. Enfin, non, en fait, vraiment, j'ai cherché le nom... quel pourrait être le nom d'une espèce énorme. Mmh. Et Golg. Je me suis dit que Golg, tu vois, c'était un peu... C'était
ouais, Golg, tu vois.
C'est
vrai. Non, ça marche.
Ouais, mais c'est pas facile de nommer comme ça un truc qui doit devenir...
Ça fait peur, en fait. En fait, une planète, une sorte d'être vivant gigantesque qui traverse les étoiles et qui s'appelle Golg, c'est assez Lovecraftien. Il y a un côté, ça pourrait être Toulouse, quoi. Enfin, Toulouse n'est pas une planète, bien sûr, mais... Puis Toulouse, en plus, vient sur Terre, c'est un peu différent, mais vous voyez ce que je veux dire.
Toulouse, c'est dur à dire.
Ou pas Golg.
Golg, ça rentre.
Golg, il y a un peu, je remarque, hein, je sais pas si tu l'as voulu, c'est moi, je me parle à moi-même. Il y a un peu.
Il a pris la grosse tête, le mec. C'est moi, je me parle à moi-même.
Non, mais ça fait, il y a un peu Golgot, tu vois.
Oui, en effet.
Mais je sais pas si je l'ai voulu. je suis pas certain, mais
probablement.
Ouais, l'inconscient.
Probablement. Tu dois te questionner.
J'imagine que tu as remarqué forcément Florian, vu que tu es arrivé après moi et du coup que tu as dû lire et bien analyser le texte plus que juste le lire une fois. Mais j'ai essayé de te mettre plein de petites accroches, une vieille queue, des protubérances, des poils qui se dressent et qui machin. Je vais voir si tu les as utilisées. J'espère que tu les as utilisées.
Pas du tout.
un peu, légèrement.
Bon, mais
on peut spoiler d'avance. Les poils, tu les as pas utilisés. J'aurais bien aimé. Je trouvais ça très cool.
Ah, t'as pas utilisé les
poils.
Non,
j'ai pas utilisé les poils.
Je me suis dit, c'était des forêts, tu vois, ça monte, ça descend. C'était cool.
Vu qu'elle était en hibernation, du coup, je me disais que potentiellement, c'était un détail important qui pouvait revenir plus tard si elle se réveillait.
Ah, comment il rejette la pierre sur le troisième, le troisième chroniqueur.
J'ai fait bien mieux. J'ai fait bien mieux, vous inquiétez pas. Moi, j'ai une autre question. Je sais pas si je monopolise
vas-y, j'ai pas de question.
Tu précises qu'elle s'arrête tous les 100 jours, donc ça c'est un élément très important parce que ça crée des marées gigantesques sur la planète.
Ouais.
Et tu n'expliques pas pourquoi, c'est volontaire, t'as pas eu l'idée.
Si, parce qu'elle s'arrête, elle s'arrête physiquement dans l'espace.
Oui, mais pourquoi ? Tous les 100 jours ?
Pourquoi il fait ça ?
Ouais.
Bah, c'est peut-être qu'il reprend sa respiration, tu vois.
Ouais, ok.
J'en sais rien.
J'avais pas bien compris.
En fait, c'était aussi l'avantage de faire une planète qui n'était pas une planète. Ouais. C'était de pouvoir faire des trucs qui, je pense, que les vrais auteurs d'Excuse Planète nous arrêtent si on dit trop de conneries.
Appelez-nous.
Mais qui, je pense, sont quelque chose de physiquement complètement impossible de faire.
Je pense qu'une planète ne peut pas s'arrêter.
S'arrêter de tourner pendant un jour et repartir.
Moi, je mettais ça sur le compte de son caractère, justement.
Peut-être.
Du fait qu'elle décide, genre, le centième jour, non.
Je ne tourne pas.
C'est fou, je me pose. C'est un peu le dimanche de la planète, tu vois. C'est le jour du Seigneur.
Et ça tombe le centième jour, c'est pas beau tout ça.
Ouais, c'est magique.
C'est fou quand même, comme quoi.
Ouais,
ça marche bien. Hein. Formidable.
C'est normal, je te regarde, j'ai envie de savoir les formes de vie qui se sont développées sur Quandica.
Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris... Parce que je sais qu'il y en a, et parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont du mal. Ouais. Florian a donc eu ce texte-là à l'origine il y a quelques semaines, et il a dû écrire la suite, la vie qui se trouve sur Quandica. Et donc Florian va tout de suite nous raconter cette petite chronique.
La faune.
Merci Florian.
Des grands singes et des castors de l'espace.
Au commencement, Quandica est composé comme tout être vivant de cellules. Cellules qui n'ont que pour seul but la survie, et par extension la survie de l'organisme qui l'héberge. Mais une fois que le Golg décide de se fixer autour d'une étoile, comme ici avec Idalia, les conditions de survie changent, et c'est un tout autre jeu qui démarre. Un jeu composé d'expériences, de réussites et d'échecs. Un jeu qui ressemble beaucoup au Pachinko, et qui s'appelle l'évolution. Si les conditions sont réunies pour que la vie se développe sur Quandica, un certain nombre d'obstacles vont venir se mettre sur son chemin. Avec plus de 70% de surface terrestre, la vie sur cette planète aurait pu être majoritairement composée de mammifères. Les forêts, les plaines, les côtes et les rivières sont autant d'environnements propices au développement de ce genre d'animaux. Du moins, c'est vrai 99 jours par an. Le centième jour, Quandica s'arrête net. L'océan inférieur s'étend et recouvre en l'espace de quelques heures la quasi-totalité des terres. Autant te dire que ce jour-là, si t'as pas pris ton maillot, t'es un peu dans la merde. Pour cette raison, la plus grande partie de la faune sur Quandica est aquatique et se concentre sur à peine un tiers de la surface de la planète. Malgré tout, cette faune est extrêmement riche et variée. On y retrouve des milliers d'espèces de poissons pour une population de plusieurs milliards d'individus. Il y a le tout petit, de quelques millimètres à peine, le très très grand qui fait la taille d'un immeuble, il y a celui qui électrocute ses proies, et celui qui se transforme en rocher pour éviter de se faire bouffer. Ceux qui vivent en communauté, et ceux qui vivent seuls toute leur vie. Il y en a pour tous les goûts, et qui sait comment les choses évolueront encore dans ce bouillon pas si primitif que ça. Au plus près des côtes, on retrouve aussi beaucoup d'amphibiens capables de quitter l'eau, et d'y revenir quand ça leur chante. Plutôt pratique pour échapper quelque temps à la cohue d'un océan surpeuplé, et pour diversifier son régime alimentaire. Car si la vaste majorité des animaux vit dans l'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne sur Terre. Après tout, il suffit de s'accrocher à quelque chose d'un peu plus haut que la moyenne, ou encore de pouvoir nager pendant 24 heures lorsque la crue arrive. C'est d'ailleurs le cas d'un petit marsupial à la queue plate et au pouce opposable, qui a appris à faire les deux. Pendant les 99 jours que leur offre Quandica pour se préparer, ces petits êtres de quelques dizaines de centimètres passent leur temps à construire des habitations à base de bois morts et de troncs tombés sur le sol. Nous autres, êtres humains, les prendraient volontiers pour des castors. Mais à leur différence, ils ne construisent pas de barrages pour capturer et manger des poissons d'eau douce. Ces êtres intelligents et assez bons artisans bâtissent en hauteur des espèces de tours difformes et rustiques qui pourraient ressembler à des instruments de siège, mais qui sont en fait des refuges précaires pour castors de l'espace. C'est plutôt malin et assez inédit, mais pas vraiment efficace. Leur population est en léger déclin permanent, et sans un tour de passe-passe de l'évolution, ils sont voués à disparaître dans les milliers d'années à venir. Dans ce bourbier, une espèce se démarque clairement de toutes les autres. Un genre de grand singe aux bras longs et fins, qui ne semble pas parler mais qui a tout de même l'air de communiquer. Mais c'est encore très loin de ce que l'on pourrait imaginer être des phrases. Et pourtant, on les voit se coordonner, encercler une proie, ou quadriller un territoire sans jamais se jeter un regard. Comme s'ils communiquaient par télépathie. Ces grands singes sont d'un pelage plus ou moins dense, roux, brun ou blond, en fonction de la région qu'ils occupent. Et si je vous parle d'eux, c'est justement parce qu'ils occupent différentes régions de Quandica. Si rien ne laissait à penser que ces singes puissent encore être en vie après tant de crues, ils sont pourtant bel et bien là, et ce n'est pas grâce à une quelconque invention. Alors ils ont bien essayé de se protéger des crues en se cachant un jour par an dans des habitations souterraines fermées par de la boue et des branchages. Mais ces tentatives ont été largement infructueuses. Non, si ces grands singes sont encore en vie, c'est grâce à leur résilience et à une idée toute simple. Grimper. Le plus haut possible, toujours plus haut. Alors ça peut paraître bête, et on pourrait bien se demander pourquoi personne n'y a déjà pensé. Eh bien parce que les seuls endroits assez hauts pour échapper à la crue sont les montagnes qui servaient jadis de radar et de gouvernail à notre Golgue. Mais aujourd'hui, ces environnements sont terriblement dangereux et peu propices à la vie. L'air s'y fait rare, tout comme la végétation, les températures ne dépassent jamais le moins 10, et pour couronner le tout, les montagnes sont sujettes à des tremblements de terre réguliers. Malgré cela, après plusieurs mois de préparation, de chasse intensive et de confection d'habits, cette espèce se réfugie là où aucune autre forme de vie ne peut survivre. Lorsque la crue s'arrête, ces singes descendent ensuite de leur montagne et procèdent à une célébration fornicatoire qui dure une bonne dizaine de jours. Grâce à cette idée toute bête, cette espèce de singe est désormais la forme de vie la plus âgée de Quandica. Une position certes privilégiée, mais l'évolution n'est pas un sprint, c'est un marathon. La suite dans la troisième partie.
Très bien.
Alors je t'ai rendu fier.
Ouais, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils sont devenus.
Alors un peu comme toi, j'ai laissé plusieurs accroches, tu vois. Quoi. On pourrait très bien faire une histoire. Je sais pas du tout ce qu'écrit Thomas, mais on pourrait très bien faire une histoire qui se passe dans l'eau complète.
Bah, tu vois, moi, quand t'as commencé à faire tout ton truc sur l'eau, je me disais ça va être toute une espèce de vie aquatique un peu. Et je pensais que t'allais développer un truc aquatique.
Ouais. Moi, quand j'ai lu ton texte avant de lire celui de Florian, j'ai cru que c'était un truc. Du coup, je me suis dit c'est un truc aquatique et puis il se passe un truc quand l'eau passe sur la terre, etc. Et en effet.
Et en fait, t'as pas pu t'empêcher de dire qu'à la fin on était sur Terre. Hein. Cette espèce de grand singe, il a remis des humains, le salaud.
Non, j'imagine plus des grands orang-outans avec des bras très fins, tu vois, qui peuvent s'agripper, qui peuvent grimper. Vraiment, le but c'était de grimper.
Ouais, mais c'est marrant. C'est cool. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Mais du coup, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu de nous finalement. Enfin, dans la forme en tout cas du singe, ça se rapproche. La forme de vie se rapproche de la nôtre.
Après, encore une fois, ce que j'ai souhaité faire, c'est de mettre plusieurs espèces plus ou moins sur le même rang. Tu vois, soit une espèce aquatique que j'ai laissé possible. Et je me suis dit aussi, je vais mettre une sorte de castor. Parce que j'aimais bien l'idée
castor
de faire
avec des pouces opposables.
Avec des pouces opposables, c'est super
marsupial.
Important.
Marsupial, castor, marsupial, qui joue un rôle important dans mon histoire.
Non, ah oui,
absolument. C'est pour ça que je précise. Castor, marsupial avec des pouces opposables et la queue plate. Très important, retenez ça.
Très bien, intéressant. Parce que du coup, pour moi, cette race était aussi très intéressante à développer. Tu vois, avec cette espèce de tour en bois très grande, etc.
Ouais. Donc en fait, tout le monde, à cause de la crue du 99, du centième jour,
exactement,
tout le monde a eu l'idée de se dire, tiens, il faudrait qu'on monte en haut.
En fait, non, majoritairement, tu as la plus grande partie des animaux qui sont restés dans la flotte. Parce que c'est plus simple pour eux, tu vois, parce que même le centième jour, du coup, ils sont...
Sauf que ceux qui sont restés dans la flotte le centième jour, ils viennent s'écraser comme des merdes contre les montagnes.
Mais non, parce qu'à mon avis, il y a tellement d'eau que je pense que c'est juste un grand courant, mais pour eux, ils sont pas...
C'est ça.
Ouais, ça passe au-dessus. Mais
par contre, ils ont trop de place, quoi. Genre, le centième jour, c'est la folie, quoi. Ils ont vraiment plein d'espace et tout, alors que d'habitude, 99 jours par an, c'est un peu blindé, tu vois, quoi.
Ouais.
C'est pour ça que j'aimais bien l'idée que les marsupiaux, tu vois, ils pouvaient à la fois être dans la flotte et à la fois non. Et qu'ils avaient aussi la faculté
J'avais pas compris ça. Tes marsupiaux là, ils vont dans la flotte aussi?
Ouais, ils vont dans la flotte.
Ils savent bien nager, quoi, en gros.
Ils savent bien nager. Okay. Ouais. C'est un peu entre deux.
Et t'as pas fait de. Ouais, tu t'es pas emmerdé avec les bactéries, les trucs comme ça, parce que pour le coup, les trucs les plus anciens sur Terre, je pense que. Enfin, Jean-Sébastien, arrête-nous.
Moi, je m'y connais un petit peu et je crois que les lézards sont arrivés avant.
Oui, non, mais tous les trucs de. Rappelle-toi, c'est une conférence de Jean-Sébastien.
Ouais. On l'appelle Jean-Seb.
Jean-Seb.
À Nantes, il me semble qu'il parlait de mousse. C'était une sorte de mousse
qui est encore.
C'est les triobites. Non, mais. C'est un nom un peu.
C'est une sorte de petit champignon, quoi.
Ouais, non, mais en gros, tout commence à partir de cellules. Et par contre, moi, ce que j'aimais bien, c'est que les cellules de l'être vivant qui est Quandica sont en fait déjà des animaux, tu vois. J'aimais bien, par exemple, que même
en fait,
nous,
c'est comme s'il avait des poux.
Exactement.
Ouais.
Par exemple, que même nous, êtres humains, nous sommes juste des cellules de l'être vivant, planète Terre, tu vois.
Ouais.
J'aimais bien cette idée-là.
Et ça aussi, c'est important. Je surligne à la voix. Alors ça, retenez-le, c'est important.
C'est pas mal de surligner à la voix.
Je le fais régulièrement parfois. Ouais. Comme ça, je suis dans le métro, je suis en train de lire mon bouquin et je surligne à la voix. Et en général, les gens quittent le wagon. Après, je m'assois, c'est cool.
D'accord, mais ok. Eh ben,
on est content là.
Eh ben, on est content et ça me donne envie de découvrir l'histoire. Ah, par contre, il n'y a pas de nom d'espèce.
Non, alors j'ai volontairement mis OK non. Parce
en même temps, c'est vrai que.
Parce que la flemme.
Non, parce que tant qu'il n'y a pas de civilisation ou de personne pour nommer les choses, il n'y a pas de nom.
Pour s'autonommer finalement.
Exactement.
Ouais.
C'est pour ça que du coup, les Golgs, c'est possible parce que c'est une.
Parce que je racontais ça d'un point de vue omniscient, parce qu'on s'en fout.
Exactement. Mais tant que personne ne parle, tant que personne n'a de langage, aucune espèce n'est nommée.
Et bien fait pour leur gueule.
Exactement.
Ça semble.
Ça se tient par le bout du nez.
Tout à fait logique.
Comme qui dirait
Pinocchio.
Exactement. Merci pour cette vanne. Je pense qu'elle va nous permettre de conclure la partie débat de la chronique de Florian.
Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la civilisation, en effet.
Et oui.
Enfin, c'est la civilisation.
C'est la
dernière
partie.
En plus, civilisation. T'aimes bien civilisation?
J'aime bien le jeu civilisation. Tout est cohérent, mais je pense que c'est pas un hasard.
Ah, c'est pas un hasard.
Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie.
Ah, et si on y allait?
Allez, c'est parti.
La vie. Et puis la mort.
La vie.
L'évolution fait son œuvre, et ce qui n'était autrefois que de simples cellules d'un grand corps appelé Golg devient au fil des éons des castors à pouces opposables ou encore des singes férus d'alpinisme. Ainsi va la vie. Surprenante, imprévisible et toujours un peu grotesque. Et l'évolution ne s'arrête pas là. Les singes continuent de muter, ils perdent leur poil et ils gagnent de bonnes manières. Ils échangent leur appétence pour les insectes crus et les coïts improvisés avec maman contre des croyances, une culture et surtout une confiance démesurée en leur propre espèce. Ainsi naquirent les Quandiciens, la première forme de vie intelligente de Quandica. Bravo la vie, tu peux être fier de toi. Si les Coindiquiens sont des gens charmants, ils possèdent néanmoins une collection impressionnante de défauts affligeants, défauts qu'ils partagent avec beaucoup d'autres espèces intelligentes immatures dans l'univers. Par exemple, ils adorent créer des sous-groupes dans les groupes. Ils adorent tout compartimenter, tout étiqueter, multiplier les acronymes et les nomenclatures hasardeuses, et ils ont l'impression de mieux comprendre le monde comme ça. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ils font du bruit quand ils boivent leur soupe, et cela les agace. Pourtant, ils continuent, et cela les agace encore plus. Les Coindiquiens ont tendance à tirer des segments et des courbes imaginaires sur des territoires en papier d'amat. Généralement, ils se chamaillent sur le résultat final, mais jamais pour des raisons artistiques. Et bien sûr, ils sont persuadés d'être le centre de l'univers et d'avoir une importance capitale dans son histoire avec un grand H. Agaçant, disions-nous. Mais ces petites choses fragiles sont aussi extrêmement attachantes. Il n'y a qu'à les voir se laisser engloutir tous les 100 jours au milieu de leur artisanat merdique. Quelle détermination! Quelle abnégation! D'autres espèces auraient volontiers choisi la facilité en replongeant dans les fonds océaniques et en évoluant vers quelque chose qui pourrait ressembler à des poissons poilus ou à des yétis à branchies. Eux, non. Ils préfèrent reconstruire inlassablement tous les 100 jours leur petit château de sable humide. Ils préfèrent s'accrocher à des arbres et vérifier à chaque fois que non, leur culture ne flotte pas et que oui, leur civilisation coule. Face à ce harcèlement maritime, si les Coindiquiens tiennent le coup, ce n'est pas parce qu'ils ont le lobe frontal qui a pris l'écume, c'est parce qu'ils ont leur opium à eux, la religion. Ils sont en effet un peuple très pieux, très croyant, et leur société est entièrement structurée par leur religion, le platisme. Philologues intergalactiques et exégètes stellaires ne sont pas d'accord sur l'origine exacte du platisme, mais l'hypothèse la plus communément admise est que cette étrange religion aurait été inspirée par de tout aussi étranges fossiles de castors marsupiales à pouces opposables que l'on retrouve partout sur Coindica. Les platistes croient en des dieux rongeurs à la queue plate qui frappent la mer tous les 100 jours pour punir les fidèles de leurs manquements. Une vague gigantesque venant alors s'abattre sur les pauvres Coindiquiens gazouillant des psaumes de la tête sous l'eau. Par souci de clarté, nous ferons l'impasse sur leur cosmogonie absurde qui décrit l'univers comme une patate chaude sortie de la poche ventrale d'un pseudo-dieu des dieux. Les Coindiquiens s'efforcent donc de toujours honorer leur panthéon de dieux mi-castor mi-wombat. Plus la souffrance cogne dure, plus ils se jettent à bras ouverts dans la mollesse tiède et obscure de la religion. Mais ça, c'était avant la grande dispute. Un schisme eut lieu dans la religion platiste, divisant la population en deux mouvements distincts irréconciliables, les verticalistes et les horizontalistes. Le sujet de la discorde n'était autre que le sens du mouvement de la queue plate des dieux. Les dieux remuent-ils la queue de haut en bas ou de gauche à droite lorsqu'ils battent l'océan tous les 100 jours? Évidemment, chacun peut mesurer l'importance de ce débat et de ses conséquences dans la vie quotidienne de Coindica. Pour résoudre ce conflit idéologique de première importance, il n'y avait donc aucune autre solution que la guerre. Et pas n'importe quelle guerre, la guerre totale. Une guerre de plus de 1000 ans qui devait s'achever par le triomphe incontestable des verticalistes. Plein de sagesse et soucieux de préserver la paix, les verticalistes ont décidé d'empêcher le débat de renaître de ses cendres et pour cela, de massacrer l'ensemble des survivants horizontalistes, ainsi que l'ensemble de leur soutien parmi la population. C'est environ 50% de la population Coindiquien qui a ainsi disparu violemment lors d'une grande purge de 9 milliards d'individus. Les verticalistes espéraient enfin pouvoir vivre en paix sur leur planète et continuer à prier leur dieu, mais les événements ne tournèrent finalement pas en leur faveur, et quelques jours après la purge, c'est la planète elle-même qui rendit son dernier souffle. Et oui, car les Coindiquiens ignoraient tout de leurs conditions. Rien dans leurs textes sacrés pour lesquels ils se sont entretués ne révélait qui ils étaient réellement, à savoir des cellules évoluées d'un même corps gigantesque. Ils ne connaissaient pas non plus le terme nécrose, qui désigne la mort violente non naturelle de cellules pouvant entraîner, lorsqu'elle est trop étendue, la mort du corps dans sa globalité. Et une chose s'est vérifiée lors de la Grande Purge, une nécrose de 9 milliards de cellules est bel et bien fatale pour l'ensemble du corps, verticaliste compris. Et c'est ainsi que cette exquise planète appelée Coindica se transforma en un cadavre exquis.
Ta 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 ta.
J'ai tué ta planète.
T'as pas pu t'empêcher de tout tuer, hein.
J'ai tout cassé.
Et oui, effectivement, tu as bien fait de surligner à l'oral le fait que les Coindiquiens n'étaient finalement que des cellules d'un plus grand organisme.
J'aime bien.
Appelé Coindica.
C'est Florian qui a introduit ça dans sa chronique. Je me suis dit, ok, il y a un truc marrant à faire avec ça.
On part sur ça.
On va partir sur une nécrose. Bonne ambiance.
J'aime bien la façon dont, au final, tous nos textes, on essayait de mettre chacun des accroches pour que les autres rebondissent et tout, parce qu'on estimait que les autres étaient peut-être un peu trop cons pour prendre la bonne accroche.
Mais c'est surtout la première fois qu'on a pu faire ça, vu que c'est la première fois où les autres le connaissent.
Et du coup, j'aime bien cette espèce de chemin à choix multiples que l'on a tracé.
Je pense qu'on a personne appris ce que les autres espéraient.
Non, clairement c'est pas. Quoi. Et c'est assez rigolo de voir.
Vous avez
ce qui
pas pris
passé.
Les poils.
J'aurais adoré prendre tes poils.
Non, mais en fait, moi j'imaginais à la toute fin avec ce que j'avais écrit que potentiellement la planète allait se réveiller, tu vois, et que du coup.
Moi aussi, j'ai cru un moment que vous alliez faire réveiller Quandica, le Quandica, pas la planète Quandica, le Golg. À un moment, je pensais que vous alliez le faire. Se réveiller. C'est pour ça que j'avais laissé un indice sur à la fin, genre il est quand même caractériel, machin.
C'est ça.
Mais c'est pour ça que c'est bien finalement.
Mais parce que c'était ma première idée, je me suis dit que c'était trop évident.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, j'ai laissé tomber.
Pourtant, je l'avais un peu prolongé en disant qu'effectivement, quand les espèces de singes, quand ils montaient sur leur montagne, il y avait beaucoup de tremblements de terre, etc. Tu vois,
c'était Quandica qui était vénère.
Elle aime pas trop qu'on monte sur sa queue et sur ses radars, on va dire.
Ouais. Non, mais cool.
J'aime beaucoup la façon dont tu as tué cette planète, dont tu as transformé cette planète exquise en cadavre exquis.
De manière tout à fait inexorable.
Tout ça pour arriver à cette phrase finale qui disait que la planète exquise devenait un cadavre exquis. Tout ça pour cette petit effet de style de merde.
T'avais cette phrase et au final t'as retracé comment arriver à cette phrase quoi.
Non, je sais pas en fait. Voilà. Et puis du coup, les castors, t'as vu, je les ai gardés.
Oui, c'est vrai. Tu les as rendus des dieux.
Tu les as foutus dans la mythologie, pas mal.
En fait, c'est toi qui as dit qu'ils étaient sur le point de disparaître. Et je me suis dit, soit je les sauve, machin, mais bon, pourquoi? Pourquoi sauver des castors à pouce opposable? Et soit je les utilise pour justifier le fait que la planète fasse des vagues parce qu'ils sont pas au courant. Et voilà.
Et cette façon que tu as les horizontalistes et les verticalistes, genre soit ils battent la queue de gauche à droite, soit ils battent la queue de haut en bas.
En vrai,
avec le petit accent, je sais pas pourquoi.
Bon, ça sort comme ça parfois.
C'est crédible.
Mais complètement,
pas déconnant quoi. Se dire non mais ça va pas à la tête.
C'est marrant, ça m'a fait un peu penser. Alors confère. Alors ça, désolé pour les nouveaux auditeurs, mais confère un vieil épisode, une chronique de Florian avec les rondistes. Enfin, ceux qui avaient des ronds sur la main et ceux qui avaient des traits sur la main.
Ça remonte très loin.
C'était un truc un peu comme ça.
Ils sortaient d'une grotte,
il y avait des éclairs.
En fait, c'est parce qu'ils apparaissaient de nulle part, tu vois.
Ils apparaissaient de nulle part, exactement.
Ne spoil pas pour les nouveaux auditeurs.
Voilà. Ça.
Mais oui, j'aime effectivement bien aussi l'idée des verticalistes et des horizontalistes. Mais je suis dès que j'étais pour les horizontalistes. De toute façon, ils sont tous morts. Alors,
ils sont tous morts à la fin. Parce que ça dénonce un peu comme
quoi.
La guerre, ça tue.
Et puis, t'as dénoncé vachement la religion aussi, quand même. Parce que, genre, basé sur rien, c'est trop débile.
L'opium, etc.
Ça cite Karl Marx, un podcast de gauche. Et voilà, et ben c'était rigolo de faire ça.
On est content d'avoir fait ça. Moi, je suis content d'avoir fait ça.
On est content d'avoir fait ça.
Ouais. J'aimerais bien aussi, si à l'occasion on le refait lors d'un futur épisode, passer à une autre place du coup. Parce que pour moi, finalement, avant l'épisode, c'était quasi un épisode normal. Parce que j'ai écrit ma chronique dans mon coin.
On pourra en faire un autre. Je pense que la place la plus dure, c'est celle de Florian, celle du milieu. Je pense vraiment que c'est dur.
Elle est pas facile. En fait,
tu dois t'accrocher à des bases et laisser d'autres bases sur lesquelles s'accrocher.
C'est ça. Et en fait, du coup, t'écris pas d'histoire.
Tu peux pas faire de coup d'éclat, quoi. Toi, tu ouvres en disant qu'une planète
elle est morte.
Moi, je peux faire ce que je veux. Je peux faire justement une chute parce que j'ai vu à la fin, donc je fais une chute. Quand t'es au milieu, t'es un peu là, genre je vais essayer de faire le lien entre les deux et bonne chance, quoi.
J'aime bien essayer de construire cette espèce d'échelle sur laquelle t'aurais pu monter après derrière pour écrire ton texte. Et en vrai, c'est plutôt intéressant aussi, mais effectivement, c'est bon.
J'ai pris ton échelle et je l'ai jetée à la mer.
Non mais c'était effectivement cool. Mais ça reste quand même effectivement le plus compliqué parce que tu es le moins libre, entre guillemets. Tu introduis pas avec ce que tu veux et tu conclus pas avec ce que tu veux. Du coup, tu es au milieu, tu es obligé de... Enfin, je pense que c'est effectivement plus dur. Mais tu l'as bien fait et j'aime bien. Voilà, Quandica.
Quandica.
On pourra l'accrocher sur notre frigo. C'est une magnifique planète que nous avons enfantée tous les trois.
Ouais.
C'est vrai, c'est notre premier enfant. Enfin, le deuxième avec le podcast, avec les garçons en général, et c'est tout. On n'a rien fait d'autre.
Pour l'instant, c'est tout.
Allez, est-ce qu'on passerait pas. Attendez, parce que on va passer à la suite.
Ah, oui.
Pourquoi on va passer à la suite? Parce qu'on s'en fout de tout ça, de l'écriture, tout ça. Le club d'écriture, c'est nul. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un quiz. C'est Vic.
Quiz. Et en fait, vu que Vic ne gagnait plus.
Que j'ai perdu
quiz,
tous les épisodes.
En vrai, t'en as gagné un ou deux.
Et ça, je crois que c'est la légende. Bah, non, je suis pas sûr. À vérifier. Bah, que les nouveaux auditeurs qui réécoutent tout nous envoient des messages, mais je pense que j'ai tout perdu.
Vu qu'il avait perdu énormément de quiz que j'ai fait, Vic a décidé. Nous avons décidé, d'un commun accord, de laisser à Vic sa chance de faire son propre quiz. Et du coup, je suis aujourd'hui un contestant.
Exactement. Ouais. On va se faire une petite virgule de conclusion et on attaque directement avec le quiz de Vic. Le premier Le quiz de Vic,
c'est
tout premier.
C'est le deuxième.
Ouais. T'en as déjà fait un ? Ah oui, t'en as déjà fait un.
C'est vrai. Allez, déjà fait un quiz ? Ouais, t'as déjà fait un quiz.
En introduction, ah bon dans un vieil épisode.
Ah oui, non, c'était pas un vrai quiz.
Virgule.
Bon.
C'est l'heure du quiz.
C'est moi qui, pour la première fois de l'histoire, épisode 17, et les reines du quiz.
Alors, je vais en profiter pour remettre mon micro en place. Désolé, auditeur.
C'est là que tout le monde va s'apercevoir du fait que, en fait, je connais rien du tout. Je n'ai aucune culture générale.
Bah, dans ce cas-là, putain,
c'est pour ça que je fais des quiz et que je n'y réponds jamais. Tu vois.
J'ai pas fait un quiz totalement à la Florian. J'ai fait un quiz qui, à mon avis, va être un échec total parce que, encore une fois, j'avais complètement oublié de le faire et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps.
Oh,
on va voir. En tout cas, une chose est sûre. Pour commencer ce quiz, c'est que vous attendez tous à ce que je vous dise bienvenue dans l'exquise quiz ou l'exquise ou un truc comme ça.
Oh, j'aimais bien exquise.
L'exquise.
Exquise.
Ouais. Eh ben non. C'est juste un quiz.
A regular one.
Alors, du coup, il y a trois manches.
Ok.
Trois manches.
Il y a une phase mimée, une phase parlée.
Non. Le premier est inspiré du thème de cet épisode, forcément.
Mm-hmm. D'accord.
Donc c'est le jeu numéro 1. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va se mettre d'abord.
T'as préparé
musique.
Les choses quand même un petit peu.
Bah, quand même. Est-ce que vous êtes prêts?
C'est solennel comme quiz.
Ouais, j'avoue.
C'est très solennel.
Allez, on ne vous explique rien. Voilà. On ne sait pas.
Si, je vais vous expliquer. La règle du jeu numéro 1, c'est: je commence une phrase, à vous de la compléter, à moi de choisir le vainqueur.
Ah ok.
Ah génial.
Ah, tu es arbitre.
Qui vous voulez être en nom des d'équipe? Pardon.
C'est hyper épique la musique que tu nous as mis.
Oui. Alors, donc toi Thomas,
en nom d'équipe, je voudrais être le Parti communiste.
Tu seras le Parti communiste.
Et toi Florian?
Je vais être Aragorn.
Aragorn contre le Parti communiste.
Bon, et ça pour rendre hommage à la musique extrêmement épique, vois-tu.
Alors, on va dire que c'est quand même de la rapidité, hein, pour que vous ayez le temps de réfléchir. Deuxième chose, vous devez finir ma phrase, je vous rappelle, c'est l'histoire d'un enfant seul dans un vaisseau spatial et à la fin, il...
avale des balles de golf par l'anus.
Pardon, je sais pas. Alors, c'était le Parti communiste qui vient de répondre.
Bon bah, j'accorde ce point au Parti communiste. C'est parfait. 1-0 pour le Parti communiste. Dans la petite pièce au fond du château, on trouve des
aspirines et de la coke.
Je sais pas ce que je dis. Quelqu'un arrête.
Mais arrêtez-le.
Arrêtez-moi.
Il est très fort en cadre exquis. Tu vois, il est fort. Hein.
C'est le premier.
Dès que tu mets la rapidité en jeu,
c'est le premier épisode où des partenaires d'Ouzbékirika, on parle directement d'aspirer des balles de golf par le cul et de cocaïne et d'aspirine.
C'est vrai que du coup, je t'accorde un point à toi parce que c'est pas politiquement correct.
D'ailleurs,
ça fait 1-1, Parti communiste.
Pas d'un euro.
Pas de
cagnotte.
T'es qui déjà ? Aragorn.
Moi, je suis Aragorn.
Donc il y a 1-1.
Il s'en fout de ce que tu dis. Continue son jeu, il lâche rien. Vas-y, continue, Vic.
Et dernière début de phrase du jeu numéro 1. Ce quiz est vachement mieux que...
Qu'un sous-marin soviétique ?
Je suis pas d'accord.
Je trouve ça vachement...
Non, un sous-marin soviétique, c'est quand même vachement
mieux. Il y a une réponse à celui-là. Ce quiz est vachement mieux que...
Que Thomas qui répond au quiz.
Oh. Que les quiz de Florian ?
Voilà !
J'ai gagné !
Oh non !
Ça fait 2-1 pour le Parti communiste. On va pouvoir passer...
C'est bien la première fois que le PC gagne.
On va pouvoir passer au jeu numéro 2. Alors, déjà, je vous mets ça. Est-ce que vous connaissez...
La musique, elle m'a tué.
Est-ce que vous connaissez cette musique ?
C'est Coldplay ?
Non.
C'est quoi ?
C'est une musique de stock ?
C'est un thème. C'est une émission. Mais c'est une émission pas française. C'est américaine.
On se croirait dans
Wii
Sport.
Ah, je sais. C'est Jeopardy ?
Ah, c'est Jeopardy ?
Exactement. C'est le thème
du
Jeopardy.
Je gagne un point.
Ça ressemble beaucoup à Wii Sport.
Du coup, ce qui m'a donné... Mais peut-être qu'ils se sont inspirés. Ça m'a donné... Enfin, pourquoi Jeopardy ? Parce que dernièrement, j'ai lu une nouvelle de David Foster Wallace dans laquelle il explore un peu l'univers du Jeopardy. Je vous invite à la lire, allez vous renseigner. Est-ce que vous connaissez la petite particularité du Jeopardy ou pas ?
Il faut donner la question.
Exactement. Il faut donner la question. Donc c'est,
toi, tu donnes la réponse et nous, on donne la question.
On va voler leur idée. Donc, je vous donne les réponses, vous me donnez la question.
Très bien.
Réponse numéro 1. Et là, il y a vraiment une vraie question. Donc, pas forcément de la rapidité. Réponse numéro 1 est la parution d'un épisode d'Alien et les garçons sur le site d'Uzbekirika.
Aragorn.
Oui.
Qu'est-ce qui est complètement improbable et qui n'aurait jamais dû se passer dans un univers parallèle de notre Terre.
C'est l'inverse de ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est pas
peut-être.
C'est pas ça. En tout cas,
qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?
L'apparition d'un. Ça fonctionne. C'est pas ce que j'ai noté, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Alors
ça
fonctionne. Proposer encore.
Un autre chose ?
Ouais. Non, parce que vous avez pas ma question. C'est pas la bonne question.
Ah oui, il faut trouver la bonne question.
Ouais.
Qu'est-ce qui pourrait consoler un enfant qui s'est pris une balle de golf dans l'anus?
Bon, non, s'il vous plaît. Non, c'était, la question était, quel est le point culminant de votre carrière?
Ah, j'espère voilà. Pas quand même.
Ben, pour le moment, en tout cas, hein, on n'en est pas loin. Donc, toujours 2-1 pour le Parti communiste, ou 3-1. 3-1 pour le Parti communiste. Réponse numéro 2. Florian, puis Thomas, puis Vic.
Dans quel ordre se sont déroulées les chroniques aujourd'hui?
C'est faux.
C'est faux. Citez vos noms, s'il vous plaît.
Qui est le plus beau, du premier au dernier?
Tu as moins 1. Il y a maintenant, ah non, il m'attend 2-0.
Excusez-moi pour cette... Je coupe totalement ce que je
sais. Florian, puis Thomas.
Essayez de réfléchir, c'est mathématique. Florian, puis Thomas, puis Vic. C'est qui, simple comme l'orthographe.
Parti communiste. Quel est dans l'ordre de
l'alphabet?
Oui. Ça fait donc un 3-0.
Parti communiste.
Classé les
3-0. Excusez-moi, j'avais un point. Ah, oui, tu m'as enlevé un point.
Ouais. Non, mais ça m'a pas plu.
Il est très dur. Hein.
Classé les chroniqueurs d'Alien et Garçon par l'alphabétique.
C'est pas une question.
Oh là là.
C'est une question.
Il est très difficile à gérer.
T'as moins 3, moins 1.
Placer les chroniqueurs d'Alien et Garçon par l'alphabétique.
Classé. C'est réponse Florian et Thomas Pivy.
Continue.
Réponse numéro 3. Lightspeed.
Quel est le nom du podcast de Thomas
Aragorn?
Oui, Aragorn. Aragorn.
Quel est le nom du podcast fictif de Thomas dans la dernière chronique de Florian de l'épisode 15?
C'est pas ça la question. Ça aurait pu, mais c'est pas
Parti
ça.
Parti communiste.
Oui.
Comment on dit vitesse de la lumière en anglais?
Non, c'est pas ça non plus.
Aragorn.
Ouais.
Quel est le pire podcast? Quelle est la pire idée de podcast au monde?
J'accepte. C'est Lightspeed. Et la vraie question était, mais la tienne convient, si ce podcast existait, il serait nul. Quel est son titre? Lightspeed. C'est effectivement une bonne réponse. Tu as 2 points, ce qui fait que tu étais à moins 1, tu passes à 1, 3.
Ok, en gros, ouais, je reviens comme d'hab.
Voilà. Alors, dernier jeu. Je suis pas sûr qu'il va totalement marcher.
Ouais.
Serge Gainsbourg a chanté une chanson qui s'appelait Le cadavre exquis en 1975 et il va s'agir de jouer au jeu de Nagui, de compléter les paroles.
Oh putain, on est très inspirés aujourd'hui.
Eh ben ouais. Alors attention,
ces paroles,
ça commence comme ça.
Si l'on jouait au jeu du cadavre exquis. Histoire de ne passer
du bon temps à deux.
C'est raté, ça rime en UI, qui est vrai exquis. Histoire de nous passer un peu.
C'est extrêmement difficile.
C'est difficile, je m'en rends pas bien compte. Vous avez moins 1 tous les deux. Ça fait
2-0.
Ça fait
2-1.
Ok, on continue.
Ah oui, l'ennui, on a pu trouver.
Tu écris un mot, n'importe quoi. Et moi j'en inscris un autre après toi.
La petite mouche. J'ai coupé au mauvais moment.
Et on n'a même pas la rime, c'est super difficile.
On n'aurait pas dit ça.
On n'a même pas la rime.
Difficile.
Petite mouche improvise, mec.
La petite mouche se balade au-dessus d'un
Gainsbourg.
Caca d'âne.
La petite mouche. C'est Gainsbourg. La petite mouche fume des cigarettes.
Non.
Brûle des billets.
Une expression mouche.
Se touche.
Non, la petite mouche. La petite mouche.
Quoi?
Elle lui a mis une cartouche.
La petite mouche a.
Brûler des.
Bon, vous avez 0 point.
À merde, à mille et bouchées de blé. Il y a des coups de pied qui se perdent.
Rue de San Francisco. Ça n'arrive pas du tout.
En fait, c'est tellement dur.
Mais oui.
Excuse-moi.
Il faut prendre une musique que tout le monde connaît.
Surtout que les paroles n'ont pas de lien les uns avec les autres.
Si. La petite mouche à merde a mis des bouchées doubles. Il y a des coups qui se perdent dans les. Ça rime avec double. Dans les.
Non,
c'est bizarre, en plus, ça rime, elle est bizarre. Enfin, elle marche, hein, mais elle est bizarre.
Bah oui, non mais...
Il y a des coups qui se perdent dans les roubles.
Ça n'a aucun sens.
Nous allons y jouer
la nuit. C'est ça?
Ouais.
J'ai réussi,
ouais, bravo. 3-1, nous allons y jouer toute la nuit. C'est bientôt fini. Ah, d'abord, il y a un petit passage solo piano.
Je m'ennuie. Les caresses.
Emmanuel aimerait qu'on la caresse.
Emmanuel aime les carottes, aime les caresses.
Emmanuel aime les caresses.
C'est vrai?
Et la suite de la chanson est « Buccal Emmanuel, remue un peu tes fesses », me dit-elle.
Super. Bravo.
C'est toujours encore une victoire du Parti communiste.
Bon, on va pas compter
les points, mais visiblement, ça ressemble à une
fessée. Ça ressemble à une fessée, on va pas se mentir.
Ça ressemble à
une fessée communiste.
Voilà. Exactement.
T'as les fesses rouges, comme moi.
Bon, ok, la prochaine fois on prendra une chanson plus connue. Elle était pas très connue cette chanson.
Non, mais c'est sympa, très, très, bon, très bon quiz. Moi, je, tu sais quoi, je t'inviterai sur des prochains quiz
c'est vrai
à le faire toi-même.
Oh. Ah, non,
c'était sympa. Je sais pas trop ce qui vient de se passer, mais c'était sympa. Moi j'ai une pensée là tout de suite. Donc là c'est la fin de l'épisode. On va dire aux gens d'aller nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur tout ça. Tu veux le dire?
Exactement. Non, ça devrait aller.
Sur iTunes, mettez-nous des likes
et surtout
des 5 étoiles.
Des propositions de thèmes pour que nous puissions écrire.
Est-ce que vous voulez que je lance la fin de la musique pendant qu'il parle parce que c'est pas très intéressant?
Quoi, attends.
Est-ce qu'on peut mettre la vie?
Juste avant de lancer la musique, parce que du coup, effectivement, donc iTunes, Twitter, Facebook, Ouzbekarika, on a tout dit, on est très contents. Mais surtout, aujourd'hui, c'est un jour spécial.
Ah oui!
C'est un jour spécial parce que. Vic, il regarde, il fait.
Bah oui, parce que c'est son anniversaire. Pas vraiment.
C'était hier.
Oui, bah ça va dire.
C'était avant-hier,
je crois. Ouais. C'est ton anniversaire, tu devrais savoir quand même.
Ouais, du coup, ok, parce que je savais pas qu'on allait. Moi, je suis surpris, je savais pas qu'on le faisait en direct.
Mais... si t'es pas content, on te le donne pas.
Ah, je suis content.
On t'a fait un petit cadeau, c'est pas grand-chose, et que du coup, les auditeurs vont s'en branler, je pense, mais
merci.
C'est quand même sympa.
Ah, vous l'avez acheté au château?
Oui, exactement, on l'a acheté au château.
Parce que c'était un peu show timing. Alors, on va décrire ce qui se passe, que c'est pas du tout radiophonique. Donc, il y a Florian qui a sorti de son sac un petit paquet emballé.
Oh, tu fais bien.
Pendant que Vic. En train de le déballer. Ça vient de la...
de la SMR.
Ça vient de la librairie 1000 pages.
Exactement.
À Vincennes. Et c'est un petit livre.
Un atlas des lieux maudits.
Exactement.
Alors, en fait,
merci les amis.
Pourquoi?
Alors, expliquez-moi.
Bah, pourquoi? Aucune raison.
Bah, c'est complètement.
Non, mais parce qu'on sait que tu as une certaine appétence pour les cartes et les atlas.
C'est vrai.
L'on partage. Et en plus, c'est pas n'importe quel atlas, c'est des atlas des lieux maudits. Et ça, en fait, c'est une collection que les auditeurs peuvent retrouver. Il y a les atlas des lieux maudits, les atlas des lieux isolés, les atlas des paradis perdus. Il y en a plein. C'est super sympa. C'est le début d'une grande collection qui se lance. Formidable.
Et donc,
château.
Du coup, c'est l'atlas,
merci beaucoup.
L'atlas des lieux maudits. Du coup, tu as le triangle des Bermudes, des trucs comme ça.
Tu vois. Tu verras, c'est très cool.
Donc, ça va m'inspirer pour le futur monde.
Et de belles cartes, de jolis petits textes.
Exactement.
Le livre plutôt joli.
Peut-être pour le monde du prochain épisode.
Prochain épisode qui sera donc sur la thématique
identité.
Identité qui nous a été proposée par un auditeur, je ne sais plus qui, mais on
par
va le citer.
Agathe, il me semble.
Agathe, c'est ça.
Oui, et si ce n'est pas elle, on la citera quand même la prochaine fois. Et voilà. Et on se dit bisous.
Et on se quitte sur quelle musique?
Moi, sur la vie, je pense. Mais j'ai juste une pensée pour tous les nouveaux éditeurs qui viennent de débarquer. Et c'était peut-être un peu confus comme épisode, parce que c'était un spécial.
Oh, ça va.
Mais parce que nous, on est dans le jus, quoi, tu vois. On est dans le jus. Mais n'hésitez pas à écouter les épisodes canon. Ça va peut-être être plus clair pour vous.
En parlant de canon.
La vie.
Santé. À bientôt. Bisous tout le monde.
Bisous.
Dans deux semaines, on se retrouve avec un épisode canon. Bisous.
Bisous.